Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer.
La mort met fin au temps que Dieu accorde à chaque homme pour se décider pour ou contre Christ. De ce fait, nous pouvons dire que la mort marque un terme au temps de la grâce. Lorsqu'un homme meurt, le choix est fait. Tout de suite après, intervient le tri. Il s'agit d'un tri irréversible, d'un tri éternel. D'un côté, ceux qui vont auprès du Seigneur, et de l'autre, ceux qui vont dans ce que nous avons appelé la dernière fois le séjour des morts. Nous voulons poursuivre dans cette direction et nous poser une question très importante. L'enfer existe-t-il? L'enfer existe-t-il? Y a-t-il réellement un lieu où vont être jetés tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ? Alors, pour répondre à cette question, ce matin, je vais être obligé de lire beaucoup de textes. Cela peut paraître fastidieux, mais je crois que c'est très important. Nous ne pouvons pas répondre à une question aussi vitale, essentiel pour nous et pour les autres, en partant seulement d'un verset. Alors je vous propose une lecture suivie de plusieurs versets. Vous pourrez les noter, mais il est important que nous laissions parler la Bible. Et je vous proposerai simplement de lire, de feuilleter notre évangile de Matthieu, et de nous arrêter à tous les textes qui ont trait à la perdition. Où il est question de ces choses. Et nous commencerons au chapitre 3 de Matthieu. Le premier témoignage que nous trouvons là est celui de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui parle d'un tri. Chapitre 3, versets 10 et 12. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre dont le bon fruit sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Le tri, le bon arbre et le mauvais arbre. Le mauvais arbre est coupé et jeté au feu. Le tri, le grain et la paille. Le grain est gardé dans le grenier. La paille est jetée au feu. Le tri, le Messie vient et il baptise. Il baptisera les uns du Saint-Esprit. Ce sont ses enfants. Il baptisera les autres de feu. Ce sont ceux qui iront au châtiment. Alors nous avons toujours ce tri qui se fait, et nous retiendrons le mot feu. Jésus poursuit au chapitre 5, verset 22. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raca mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Feu et géhenne. Nous expliquerons tout à l'heure ce qu'est la géhenne. Toujours dans le même chapitre, au verset 29 et 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps n'aille pas en entier dans la géhenne. Chapitre 7, verset 13, toujours Jésus. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. À nouveau, le tri. Le chemin étroit pour le salut, le chemin large pour la perdition. Et nous retiendrons là le mot perdition. Nous avons déjà trois mots que nous retenons. Feu, géhenne, perdition. Chapitre 7, verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Il reprend là le message du précurseur, de Jean-Baptiste. C'était le serment sur la montagne. Feuilletons encore notre évangile de Matthieu et nous arriverons au chapitre 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. La mort physique ne concerne que le corps. Mais ici, Jésus dit, attention, il y a un lieu où l'âme et le corps sont concernés. Et il s'agit de la géhenne. Matthieu 13, verset 30, nous arrivons là dans les paraboles. Ce sont des images. Et nous allons trouver des images, mais toujours la même affirmation, le même tri. Chapitre 13, verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. L'ivraie et le blé. Le blé dans le grenier, l'ivraie au feu. Nous reprenons là, nous retrouvons là le témoignage de Jean-Baptiste. Toujours dans le même chapitre 13 de Matthieu, le verset 42. Et ils jetteront dans la fournaise ardente, ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous avons là une explication de la parabole de l'ivraie, et Jésus dit que le blé, ce sont les fils du royaume, et l'ivraie, ce sont les fils du malin. Et ces hommes-là, ceux qui sont cause de scandale et qui commettent l'iniquité, seront jetés dans la fournaise ardente. Et nous avons là une expression nouvelle, fournaise chauffée à blanc. Pas une fournaise éteinte, pas un four éteint, mais une fournaise chauffée à blanc, une fournaise ardente. Et cause de souffrance, pleurs et grincements de dents. Au verset 50, nous retrouvons la même expression. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est après la parabole du filet qui retire toutes sortes de poissons de la mer. Et le tri est fait par les pêcheurs. Les bons sont gardés, les mauvais sont rejetés. Poursuivons en feuilletant notre évangile de Matthieu. Et nous arrivons au chapitre 18, versets 8 et 9. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu et la géhenne. Jésus nous dit qu'il y a quelque chose de pire que d'être aveugle même. Il y a quelque chose de pire que de perdre un membre, c'est d'être jeté en entier dans la géhenne. De nouveau, feu de la géhenne. Chapitre 23 de Matthieu, verset 33. Jésus s'adresse aux pharisiens, aux chefs religieux de son temps. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? et enfin au chapitre 25 de Matthieu, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Ici, il est question de feu éternel. Et lorsque vous lirez tous ces textes, vous vous apercevrez qu'ils peuvent prendre leur place, trouvent leur place aussi bien dans des paraboles que dans des discours, dans des exhortations à ses disciples comme dans des répliques à ses adversaires. Et nous trouverons que Jésus a parlé de la géhenne. Il en a même beaucoup parlé de la géhenne et il a mis ses contemporains en garde. Un autre livre qui parle beaucoup de ces choses est le livre de l'Apocalypse. Et nous allons nous tourner maintenant vers l'Apocalypse. Et nous trouverons au chapitre 14 de l'Apocalypse. Chapitre 14, versets 9 à 11. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'auront de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et qui reçoivent la marque de son front. » Nous reviendrons sur ce texte plus tard, mais nous allons simplement relever ici qu'il est question maintenant de feu et de soufre. Chapitre 19 de l'Apocalypse, verset 20. « La bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. » Et nous retrouvons cette expression, étang de feu et de soufre, que nous allons d'ailleurs retrouver à plusieurs reprises, encore, chapitre 20, verset 10. « Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Chapitre 20, verset 15, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Et enfin, au chapitre 21, verset 8, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. » Nous avons donc entendu le témoignage de Jésus dans l'évangile de Matthieu, ou dans les évangiles. Nous avons de nouveau le témoignage de Jésus dans l'Apocalypse. Et maintenant, il nous faut encore le témoignage des apôtres. Comment ont-ils compris tout cela? Et comment l'ont-ils expliqué? Alors, nous allons nous pencher sur les épîtres. Épître aux Romains, tout d'abord. Chapitre 2, versets 5 à 9. « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère de Dieu » et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Et nous sautons au verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Nous passons à la première épître aux Thessaloniciens. Première épître aux Thessaloniciens. Pardon, la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9. ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » C'était le témoignage de Paul. Écoutons le témoignage de Pierre. Deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, verset 7. « Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » Et nous terminerons par le témoignage de Jude, Jude, verset 23, à la fin, au début plutôt, « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. » Nous pouvons donc dire que le Nouveau Testament rend témoignage de l'existence d'un lieu de feu, d'un lieu de châtiment, un lieu de souffrance. Mais que dit l'Ancien Testament? Eh bien, l'Ancien Testament en parle très, très peu. On est étonné, en feuilletant l'Ancien Testament, de ne pas trouver ce lieu. Il n'y a qu'une seule allusion à la fin du prophète Ésaïe, au chapitre 66, verset 24. C'est le dernier verset du prophète Ésaïe. Et nous lisons, « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur feu, leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » On peut dire que ce lieu de châtiment n'a pas encore été révélé aux témoins de l'Ancien Testament. Dans l'Ancienne Alliance, le châtiment, c'était un châtiment physique, un châtiment immédiat, ou tout simplement la mort qui frappait. Et dans l'Ancienne Alliance, on a très peu de révélations concernant la vie après, dans l'au-delà, concernant les choses de la fin, très peu d'indications. Il faudra attendre la venue du Fils de Dieu qui, lui, peut parler parce qu'il sait. Et il donne cette révélation. Il y a, après la mort, un tri. Et il y a deux lieux. Un lieu de félicité, mais aussi un lieu de tourment. C'est dans le Nouveau Testament que nous trouvons ces choses. Et il est important de le souligner. Alors, essayons de comprendre la signification des termes employés. L'enfer existe-t-il? Je pense que vous l'avez réalisé en écoutant tous les textes que j'ai lus tout à l'heure, que le mot « enfer » n'a jamais été mentionné. Si nous voulons être tout à fait bibliques, nous disons « non, l'enfer n'existe pas ». La Bible ne parle pas de l'enfer. Ou tout au moins n'emploie pas le mot « enfer ». Nous ne le trouvons pas dans la Bible. Qu'est-ce que l'enfer? L'enfer, désigné pour les anciens, dans l'Antiquité, les régions inférieures. On peut même parler des dieux, des divinités, des régions inférieures. Ces choses-là n'existent pas. C'est le langage populaire qui a appliqué le mot « enfer » à un lieu que nous sommes en train de découvrir ensemble dans le Nouveau Testament. Le mot « enfer » est donc impropre. Il n'est pas biblique, mais il faut dire qu'il est commode. Quand on parle de l'enfer, tout le monde comprend. Le mot le plus fréquent que nous avons trouvé dans le Nouveau Testament, et même chez Ésaïe, c'est le mot « feu ». associé souvent au mot GN. Tous les Juifs savaient ce qu'était l'AGN. L'AGN était un petit vallon à l'extérieur de la ville de Jérusalem où l'on brûlait les ordures. C'est la décharge publique. C'était la vallée de Hinnom. Vous trouverez ça sur votre carte de la ville de Jérusalem. Pourquoi brûlait-on les ordures de la ville dans cette vallée? Parce que de tout temps, dans cette vallée, les peuples païens s'étaient livrés à des cultes idolâtres où l'on brûlait des hommes en l'honneur des faux dieux. Et même certains rois d'Israël, à certaines époques, avaient aussi offert des sacrifices humains et même leurs propres enfants dans la vallée des fils de Hinnom. Dans la vallée de Hinnom. C'est le roi Josias qui viendra et qui détruira tous ces lieux, tous ces cultes aux faux dieux, qui profanera ces autels en y brûlant des ossements d'hommes, des ossements, pas des êtres vivants, des ossements d'hommes, il profanera, il souillera tous ces lieux, et finalement, on prendra l'habitude d'y brûler les ordures de la ville. Et quand Jésus parle de la géhenne où le feu ne s'éteint point, vous savez très bien ce qui se passe sur les décharges publiques, il y a toujours un feu qui y brûle. Et cela se passait déjà à l'époque de Jésus. C'est ainsi que les choses se passaient. Et quand Jésus parle donc, s'adresse aux pharisiens, ou à son auditoire, en disant « Attention, il vaut mieux pour toi perdre un œil ou perdre un bras que d'être jeté en entier dans la géhenne », tout le monde approuvait de la tête. Tout le monde était d'accord, parce que personne n'avait envie d'aller, d'être jeté sur la géhenne, dans la géhenne. Personne n'avait envie d'être mis à mort et d'être jeté dans ce lieu des ordures de la ville, ce que l'on doit brûler. Dans l'Apocalypse, nous avons trouvé un autre terme. Il s'agit d'un étang de feu. Étang de feu et de soufre. Cette image ne vient pas de Jérusalem, mais il faut plutôt descendre vers la mer Morte, où il y a des sources sulfureuses, où il y a du bitume. Et la Bible rend témoignage qu'à certaines époques, il y avait là des feux qui étaient entretenus, qui s'entretenaient tout seuls. C'était des feux de bitume, des feux de soufre. Et vous savez que le soufre se consomme lentement, très lentement. Et on éteint difficilement un feu de soufre. Donc voilà ces deux images qui sont employées. La décharge publique, où l'on brûle les ordures, et ce phénomène naturel, au bord de la mer Morte, ces feux qui sont entretenus par le bitume, par le soufre, qui sont là. D'autres termes ont été employés. Le mot perdition et le mot ruine. Et enfin, le mot seconde mort. Tous ces termes, pris isolément, font penser à la destruction complète. Le feu brûle et ne laisse que des cendres. Quand il est question de ruine, eh bien, on voit très bien ce que cela signifie. Une maison en ruine, c'est une maison qui est inutilisable. La perdition, un navire en perdition est un navire qui va couler et qui va disparaître. La mort, eh bien, pour les humains, c'est la fin de tout. Donc, tous ces termes, pris isolément, font penser à un châtiment qui implique la destruction, la fin, quelque chose qui détruit, qui il n'y a plus rien après. Et pourtant, En reprenant ces textes, nous trouvons par exemple dans Marc 9, verset 48, la géhenne où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Quand nous nous penchons sur les textes de l'Apocalypse, les temps de feu et de soufre, nous voyons par exemple que la bête, l'Antichrist, et le faux prophète sont jetés dans cet état. Le diable les rejoint 1000 ans plus tard. Mais ils sont toujours encore là. Dans l'Apocalypse, nous ne lisons pas où ont été jetés et détruits la bête et le faux prophète. Non, ils sont encore là. C'est un feu qui n'est pas comparable à notre feu. C'est un feu qui ne consume pas. Comme le buisson ardent que Moïse a bu dans le désert n'était pas consumé, c'était le symbole de la présence de Dieu, présence éternelle de Dieu, de même, dans la géhenne brûle un feu qui ne consume pas, ronge des vers qui ne détruisent pas. Alors comment comprendre cela? Il faut comprendre cela en pensant aux tourments, à la souffrance qui sont infligées, et non pas à la manière dont les hommes sont détruits. Les hommes dans ce lieu subiront un tourment qui ressemble à la brûlure du feu. Mais ce tourment ne les détruira pas, ce feu ne les consumera pas. C'est une souffrance qui est liée au corps. Par exemple, lorsque nous nous faisons très mal, lorsque nous avons un abcès ou un ulcère à un membre, il nous fait très mal. Mais nous souffrons parce qu'il est là. Et on ne pourrait, en quelque sorte, être débarrassé de cette souffrance qu'en amputant le membre. Dans la géhenne, il y aura des souffrances parce que le corps sera là. Tout le corps souffrira. Et il n'y aura pas moyen de mettre un terme à la souffrance parce qu'on ne peut pas amputer le membre qui souffre. C'est tout le corps qui souffre. Et c'est la raison pour laquelle ce sera une souffrance qui ne détruit pas. Elle sera là. Tant que le corps existera, il y aura souffrance. Tant que l'âme existera, il y aura souffrance. Donc, quand nous trouvons dans la parole de Dieu les images de feu, de soufre, ne pensons pas à la destruction, mais pensons à l'effet du feu, pas à la destruction. Il faut revenir maintenant à un texte de l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Alors là, il faut aussi que nous mettions de côté l'imagerie populaire. Demandez à quelqu'un comment il se représente l'enfer. Et il vous fera une description vraiment intéressante. Une grande marmite rempli de feu, avec du feu autour encore, et les âmes qui souffrent là-dedans, autour de la marmite, les diablotins attisent le feu, et surveillant tout cela, assis sur son trône, le diable. Le diable, maître des souffrances dans l'au-delà. Organisateur des souffrances dans l'au-delà. Eh bien non, la grande marmite n'existe pas et il n'y a pas dans la géhenne de diablotins qui attisent le feu, nous trouvons au contraire que les démons y sont aussi et que le diable y a sa place. Et nous trouvons même que s'il existe une géhenne, c'est pour le diable. Reprenons ce texte. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. La géhenne n'a pas été préparée pour les hommes, la géhenne a été préparée pour le rebelle, pour Satan et pour ses anges. Il y sera précipité et il y retrouvera, il y rejoindra celui qui aura été son porte-parole sur la terre, l'Antichrist et le faux prophète. La géhenne, c'est pour le diable, c'est pas pour les hommes. Combien de temps dureront les tourments dans la géhenne? Y a-t-il une fin à cette horreur? Je dois vous dire que c'est certainement l'une des vérités qui est la plus difficile à enseigner, et c'est la raison pour laquelle moi-même j'en parle très peu, très rarement. Vous ne trouverez pas dans notre cassettothèque beaucoup de cassettes qui parlent de ce thème. C'est un thème difficile. On en parle très peu aujourd'hui dans les églises. Et pourtant, comme j'aimerais pouvoir vous dire, oui, il y a une fin. Après avoir souffert pendant quelques années ou quelques siècles, il y aura une fin. Une rédemption pour les uns ou la destruction, l'anéantissement, la perte de conscience pour les autres. Oh, comme j'aimerais pouvoir vous le dire. Mais rien ne m'autorise dans la parole de Dieu à vous dire cela. Si je vous le disais, j'irais plus loin que ce qu'il est permis d'enseigner. Je n'ai pas le droit. Je dois vous transmettre le message tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu emploie des termes qui ne me permettent pas de dire que ces tourments trouveront une fin. Par exemple, je sais que certaines sectes vous disent qu'il y aura une fin, que les tourments ne sont pas éternels, et ils prennent des versets de la Bible. Par exemple, le verset de Apocalypse 20, verset 10, où nous trouvons qu'ils seront tourmentés au siècle des siècles, jour et nuit. Et ils nous font remarquer que le mot jour, nuit, le mot siècle, tout cela fait partie du temps. Et ils nous disent, mais Dieu est en dehors du temps. Donc les souffrances dureront tant qu'il y aura des jours et des nuits. Mais il viendra un moment, l'Apocalypse nous parle d'un moment où il n'y aura plus de nuit. Donc ce jour-là, à ce moment-là, il n'y aura plus, non plus de tourments. Ce sera terminé. Le temps se sera écoulé, sera clos. Évidemment, c'est un argument que je saisirai aussitôt, comme une bouée. Et je dirai, c'est merveilleux. Les souffrances ne dureront que tant que le temps existera. Seulement, j'ai trouvé au début de l'Apocalypse, par exemple, chapitre 4, verset 9, « Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. » Cette expression exactement la même est attribuée à Dieu. De même, le mot éternel, le feu éternel et le Dieu éternel. Alors, si l'expression « au siècle des siècles » marque une durée bien définie, alors je dois dire, dans ce cas, Dieu a aussi une durée bien définie. Alors ce matin, je ne peux pas vous dire autre chose que les tourments de la géhenne dureront aussi longtemps que Dieu vivra. Et vous allez en tirer une conclusion. Les termes sont les mêmes, au siècle des siècles, jour et nuit éternel. Tous les mots qui nous parlent de l'éternité de Dieu sont aussi employés pour nous parler de l'éternité des tourments. Alors, venons maintenant à l'évangile de Jean, à un verset bien connu du chapitre 3. Et nous allons écouter ce verset que nous connaissons par cœur. Nous allons l'écouter avec des oreilles qui sont maintenant ouvertes pour un mot qui se trouve dans ce texte. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand nous parlons de ces choses, on nous dit, mais l'amour de Dieu, comment peut-il s'accommoder de cela? L'amour de Dieu. Je vous ai fait remarquer tout à l'heure que c'est le Nouveau Testament qui parle de la perdition éternelle. Si nous avions trouvé ces textes dans l'Ancien Testament et un seul texte dans le Nouveau Testament, on nous dirait, vous voyez bien, c'est le Dieu de la loi dans l'Ancien Testament. C'est le Dieu de la loi qui punit, qui châtie, qui menace. Mais le Dieu du Nouveau Testament, c'est le Dieu de la grâce, le Dieu de l'amour. Eh bien non, moi je trouve la perdition dans le Nouveau Testament où l'on nous parle de la grâce et de l'amour de Dieu. Mais cet amour de Dieu, comment se manifeste-t-il? Nous raisonnons toujours dans le terme de châtiment et nous disons la perdition éternelle, c'est la punition pour ceux qui ont fait le mal. Non. La perdition éternelle, l'étang de feu, c'est la punition pour Satan, pas pour les hommes. Et les hommes qui iront dans la géhenne n'y iront rejoindre Satan, pas à cause de leurs mauvaises actions, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas choisi un nouveau maître. Ils n'ont pas saisi l'occasion qui leur a été donnée dans la grâce et dans l'amour de Dieu d'être sauvés. Le Fils de Dieu est venu sur la terre pour arrêter une humanité qui se précipite les yeux bandés dans la perdition éternelle. Et il s'est dressé là, sur une croix, et il a dit « Arrêtez ! » Vous pouvez être sauvés, arrêtez, vous pouvez échapper à l'éternité de tourments, arrêtez. L'humanité y va. Mais ceux qui entendent l'appel de Jésus, ceux qui acceptent l'appel de Jésus, ceux-là s'arrêtent, ceux-là échappent. Et c'est cela l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est d'aller chercher dans une maison en flammes ceux qui appellent au secours, ceux qui se laissent sauver. L'amour de Dieu, c'est de crier sur un bateau qui coule, allez tous dans les canaux de sauvetage. L'amour de Dieu, c'est de sauver ceux qui veulent être sauvés, et il a envoyé son Fils, qui a souffert dans son cœur, dans son âme, les tourments du feu éternel, il a envoyé son Fils pour que les hommes n'aillent pas dans les tourments éternels. L'enfer ne sera pas peuplé de pécheurs punis, mais il sera peuplé d'insensés qui n'auront pas saisi le salut qui leur a été offert. Et c'est pour cela que nous évangélisons. Nous n'évangélisons pas pour que les pécheurs changent de voie et ne soient pas punis. Nous évangélisons pour que des hommes qui vont au-devant du feu éternel échappent. Puisque nous savons, nous, qu'il y a moyen d'échapper. Et c'est pour cela qu'il faut aussi parler de l'enfer. Parce que personne n'a envie de faire quoi que ce soit s'il se sent en sécurité. Et il faut dire aux gens qu'ils sont en danger. Il faut avoir le courage de le dire, même si on nous rit au nez. Nous prendrons un dernier texte dans le livre des Proverbes. Chapitre 24, versets 11 et 12. Et en pensant à cette humanité qui, dans son ignorance, va au-devant de tourments éternels, dans son insouciance, la parole de Dieu nous dit ce matin, « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. » Si tu dis, « Ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? » Nous savons que la géhenne existe. Et nous savons comment y échapper. Combien grande est notre responsabilité si nous nous taisons? Est-il nécessaire d'évangéliser? C'est à vous de répondre.